Oui, bonjour tout le monde. Hier, on a eu 1490 nouveaux cas, 12 nouveaux décès, dont 6 seulement ici à Québec, dans la capitale nationale. 6 décès, 6 nouveaux décès hier à Québec. Donc, s'il y en a à Québec, entre autres, qui pensent que c'est pas sérieux, la COVID, 6 nouveaux décès dans une journée, je pense que faut regarder les faits et être très, très, très prudent. On a eu hier le ministre de la Santé, directeur national de la Santé publique, une longue rencontre avec les experts de l'INES, de l'INSPQ, les autres experts qui sont à la santé publique, pour essayer de faire des projections dans les prochaines semaines. Ce qu'on voit, c'est que la situation reste grave, puis malheureusement, risque de s'aggraver encore plus dans les prochaines semaines. On a pour l'instant 643 hospitalisations, mais quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, c'est très inquiétant. Alors, je vous donne juste quelques chiffres. En France, actuellement, on a 29 000 hospitalisations. En Italie, on a 32 000 hospitalisations. À New York, on a 4 800 hospitalisations. Plus près de nous encore, en Ontario, on est rendu à 1800 hospitalisations. Je le rappelle, nous, on était 643. Donc, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on peut effectivement se demander, est-ce que c'est ce qui nous attend dans les prochaines semaines? Bon, d'abord, c'est important de dire, il y a trois régions qui nous inquiètent vraiment, où c'est vraiment très grave. Bon, d'abord, ici, dans la capitale nationale, seulement depuis 2 jours, on a eu une augmentation nette de 15 hospitalisations. L'autre région qui nous inquiète beaucoup, c'est l'Outaouais. On a eu, juste depuis 2 jours, 13 hospitalisations au net de plus. Et Chaudière-Appalaches, qui est quand même une région plus petite. Et puis là, le problème n'est pas seulement Lévis, il est beaucoup aussi en Beauce. Puis depuis 2 jours, on a eu 5 nouvelles hospitalisations. Donc, quand on regarde l'augmentation des cas des dernières semaines, on peut penser que dans ces trois régions-là, les hospitalisations vont continuer d'augmenter. Et c'est dans ces trois régions-là qu'on a, toute proportion gardée, le plus grand nombre de nouveaux cas puis le plus grand nombre de cas actifs. Donc, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Outaouais. Donc, je vous annonce tout de suite aujourd'hui qu'on va reporter pour une semaine les mesures d'urgence, donc jusqu'au 25 avril. Ça veut dire essentiellement 3 grosses mesures. Couvre-feu à 8 heures. Les commerces non essentiels restent fermés et toutes les écoles restent fermées dans ces 3 régions-là. On étend aussi un peu le territoire parce qu'on s'est rendu compte qu'au cours des derniers jours, en Outaouais puis en Chaudière-Appalaches, ça s'est vraiment étendu, pas seulement dans quelques villes, mais à grandeur des territoires. Donc, à partir de demain soir, 8 heures pour le couvre-feu, à partir de jeudi pour les écoles, dans tout l'Outaouais et tout Chaudière-Appalaches, ça va être fermé. Bon, à Québec, il y a une augmentation dans Portneuf, mais c'est encore sous contrôle. Et ça reste faible dans Charlevoix. Donc, on garde la même région qu'on avait pour la capitale nationale. Bon, les deux autres régions qui nous inquiètent, c'est Montréal puis Laval. Donc, au total, il y a 5 régions qu'on suit de très près. Montréal et Laval, le nombre de cas est élevé. Je reviens à ce que je disais tantôt, quand on regarde le nombre de nouveaux cas ou le nombre de cas actifs, c'est 4e et 5e région, Montréal et Laval, donc après Québec, je veux dire Appalaches et Outaouais, mais le nombre de cas reste stable, donc élevé, mais stable, il n'y a pas d'augmentation. Donc, pour l'instant, pour Montréal et Laval, on garde le couvre-feu à 20 heures, mais pour l'instant, on laisse les commerces non essentiels et les écoles ouvertes. Évidemment, on souhaite, surtout les écoles, les garder ouvertes le plus longtemps possible, mais c'est impossible que dans les prochaines semaines, des régions très denses comme Montréal et Laval, qu'on soit obligé d'aller plus loin. Mais pour l'instant, on s'en tient au couvre-feu à 8 heures. On voit aussi dans la couronne autour de Montréal, donc Montérégie, Laurentides, La Naudière, la partie CMM ou ce qu'on appelle 450, qu'il y a une certaine augmentation. Donc, on surveille de très proche. Il y a une région qui était jaune, Côte-Nord, qu'on fait passer au orange parce qu'il y a une augmentation de cas. Et peut-être pour préciser ce que je n'avais pas fait la semaine passée, puis je m'en excuse, les régions qui sont jaunes, donc nord du Québec, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et Côte-Nord, même si ça devient orange, ces trois régions-là, on interdit aux gens des autres régions d'aller là. On ne commencera pas à mettre des policiers, mais c'est interdit. Donc, seulement les voyages qui sont essentiels, on demande aux gens de respecter. Puis oui, vous pourriez avoir une contravention si vous vous retrouvez dans une de ces trois régions-là sans une bonne, une bonne raison. Dans l'ensemble du Québec, là, dans les 17 régions, la situation est toujours fragile, entre autres à cause de la présence des variants. Et je le rappelle, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on peut même se compter chanceux d'être épargné sur une partie de notre territoire, mais il n'y a aucune région qui est à l'abri dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, il faut rester extrêmement prudent partout, tout le monde. Bon, quand je dis tout le monde, je veux prendre un certain temps pour parler des personnes plus jeunes. On se rappelle, là, dans les premières vagues, surtout la première vague, la grande majorité des personnes qui étaient infectées, qui étaient hospitalisées, c'était des personnes de 60, 65 ans et plus. Actuellement, dans nos hôpitaux, quand on regarde les personnes qui entrent, il y a une majorité qui sont des personnes de moins de 60 ou 65 ans. Donc, peut-être 50, 55 %. Donc, évidemment, s'ils entrent à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont des troubles relativement graves. Donc, les experts ne savent pas, est-ce que c'est à cause du variant ou est-ce que c'est à cause justement parce qu'il y en a plus de contagion. Mais ce qu'on a vu, là, quand on dit qu'il y a plus de jeunes, c'est pas seulement en pourcentage, là, en nombre absolu. Le nombre de jeunes a comme doublé. Donc, si on se compare avec le pic de la première vague, là, donc, il y a une augmentation nette, brute, absolue, appelez ça comme vous voudrez, là, c'est pas juste en pourcentage. Il y a une augmentation du nombre de jeunes. Puis, les conséquences sont graves, là. On parle, dans certains cas, à long terme, de maux de tête, essoufflement, fatigue, perte d'odorat, difficulté de concentration. Bon, vous avez vu comme moi, il y a quelques jours à Québec, une femme de 24 ans qui, en quelques jours, a perdu 40 livres, qui est obligée d'être gavée, qui en a pour des mois avant de réapprendre à manger. Ce matin, on voyait dans les médias un homme de 36 ans à Saint-Hyacinthe, qui est là depuis une dizaine de jours, qui n'est plus capable de marcher parce que dès qu'il se lève, il y a des étourdissements. Donc, c'est vraiment là possible pour des gens de 20, 30, 40, 50 ans d'attraper la COVID puis d'avoir des conséquences très graves. Ce que ça veut dire, c'est que malheureusement, ça repousse le moment où on pense être capable de revenir à la normalité. Rappelez-vous, on vous disait, une fois que les plus âgés vont être vaccinés, le portrait va beaucoup changer. Sauf que là, le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Ça veut dire que le 24 juin, ça demeure la date où on peut espérer commencer à penser à la normalité pour deux raisons. Bon, évidemment, ça avance très bien avec la vaccination, puis tous les Québécois qui veulent être vaccinés vont pouvoir être vaccinés d'ici le 24 juin. Puis évidemment, on va voir ce qu'on fait, ce qu'on réussit à faire avec les écoles. On veut garder les écoles ouvertes partout le plus longtemps possible. Mais tant que l'année scolaire ne sera pas finie, donc autour du 24 juin, il va y avoir de la contagion dans les écoles qui vont affecter les gens qui habitent avec ces enfants-là. Donc, on peut penser qu'il y a beaucoup d'incertitudes là, pour les deux prochains mois. Donc, on a deux gros mois devant nous. Je trouve ça terrible de dire ça. Là. J'aimerais mieux être en train de vous dire, on a quelques semaines difficiles devant nous, là, mais on a, avec le variant, avec la présence de la COVID chez les gens plus jeunes, puis les hospitalisations chez les plus jeunes, on a deux gros mois devant nous. Bon, en terminant, je veux dire, je veux m'adresser aux jeunes adultes, là, pas ceux qui ont fait du vandal, là, dans le Vieux-Montréal dimanche, là, les autres jeunes. Je comprends que vous êtes tannés. J'ai eu 20 ans, puis quand on a 20 ans, c'est le temps d'être avec ses chums, pour avoir du plaisir, puis sortir. Puis déjà, depuis un an, on vous en a demandé beaucoup. Donc, je ne veux pas faire la morale à personne. Au contraire, je suis très reconnaissant de ce que les jeunes ont fait depuis un an. Mais là, il faut comprendre, ça fait un an qu'on vous dit « Soyez solidaires des plus vieux », mais là, actuellement, c'est votre santé qui est en jeu. Il y a des jeunes adultes qui vont à l'hôpital puis qui ont des conséquences graves. Là. Donc, il faut faire attention à votre santé. On a 73 jours devant nous avant que tous les adultes là, soient vaccinés, tous ceux qu'ils veulent. Donc, je veux vous dire d'être prudent. Terminant, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé, effectivement, ça s'est passé après la conférence de presse, autant du côté de la CNESST que de la santé publique, puis je ne l'avais pas vu passer. À cause de la présence des variants, les masques à l'extérieur sont obligatoires. Il y a deux exceptions. Si vous êtes seul ou avec des gens avec qui vous habitez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque. Ce que la santé publique nous dit, si vous faites un pique-nique, maximum 8, une fois que vous êtes assis à 2 mètres les uns des autres, vous n'avez pas besoin de porter de masque. C'est les deux seules exceptions. Donc, quand vous êtes seul avec des gens avec qui vous habitez ou une fois assis dans un parc à 2 mètres, que vous pouvez enlever le masque. Le reste du temps, quand il y a d'autres personnes autour de vous, même s'il y en a juste une qui n'habite pas avec vous, maintenant, le masque est obligatoire. Donc, je comprends que les mesures changent beaucoup, mais la situation change beaucoup aussi. Donc, je termine en vous disant, la liberté, c'est évidemment plus que jamais le vaccin, puis le vaccin pour tous. Donc, pas seulement le vaccin pour les plus âgés, mais les vaccins aussi pour les plus jeunes. Hier, on a franchi une étape importante grâce à la bonne organisation. On a franchi le cap du 2 millions de Québécois qui sont vaccinés. Puis, on vise toujours, puis on est convaincu que tous ceux qui veulent se faire vacciner d'ici le 24 juin vont pouvoir se faire vacciner. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 73 jours, et après ça, ça va être l'été. Donc, je vous remercie beaucoup, tout le monde.
Good afternoon, everyone. Valérie?
Oui.
Qu'est-ce que tu retiens?
Bien, c'est vraiment une mise en garde aujourd'hui. Là. On nous rappelle, effectivement, on nomme des cas. On met le visage sur la maladie en parlant de personnes jeunes qui sont atteintes. Je pense qu'on a beaucoup parlé aux jeunes aujourd'hui de faire attention davantage parce que là, évidemment, auparavant, on leur demandait d'être solidaires parce que les personnes plus âgées attrapaient la COVID. Maintenant, ce sont eux qu'on retrouve dans les
hôpitaux. Ça, c'était le message le plus fort. Tu as absolument raison de le noter. Quand il l'a dit avant, on vous demandait d'être solidaires des plus vieux. Là, c'est votre santé.
À vous.
C'est de votre santé dont il est question.
Ouais.
Puis l'autre chose que je... Parce que, tu sais, il disait, il donnait des exemples, l'exemple de Saint-Hyacinthe et tout ça. Puis je me disais, dans mon fort intérieur, oui, mais c'est ça, c'est un cas, c'est un autre cas, c'est des cas isolés. Mais ces cas isolés-là lui servaient à dire aux plus jeunes, regardez, ça peut vous arriver.
Exact.
C'est pas le nombre qui est important,
non.
C'est le fait que vous êtes tous vulnérables.
Mm-hmm.
Donc, faites attention, prenez soin de vous.
Parce qu'on parle beaucoup de chiffres et de statistiques, mais quand on met un visage ou un cas précis, c'est plus clair.
Exact. Alors, il a répété que les trois régions les plus critiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire Capitale-Nationale, Outaouais, Chaudière-Appalaches. Bon, là, il a étendu à l'ensemble de Chaudière-Appalaches ce qui s'appliquait à Lévis.
Mm-hmm.
Il a appliqué à l'ensemble de l'Outaouais ce qui s'appliquait à Gatineau, tout ça. Puis là, il nous a mis en garde très clairement par rapport à Montréal et Laval. Là.
Oui.
Il nous a pas dit « vous êtes les deux prochains ». C'est pas ça qu'il nous a dit.
Non, non,
c'est pas ça qu'il nous a dit. Mais il nous a dit « il nous inquiète ces deux régions-là, Montréal et Laval ». En plus des trois que je viens de nommer, là, juste en dessous, là, il y a Montréal et Laval.
Oui, puis il a dit « pour l'instant, c'est pas impossible qu'on soit obligé d'aller plus loin, mais pour l'instant, on laisse les écoles, les commerces essentiels ouverts, mais ça pourrait très bien basculer ».
Période des questions.
Canadienne.
Oui, bonjour, vous m'entendez bien?
Oui.
D'abord, je voudrais m'assurer que, avant d'aller plus loin, vous avez donné toutes les informations importantes dans votre présentation et qu'on ne la prendra pas par communiqué par la suite. Est-ce qu'il manque des choses que vous devriez...
Bon, la semaine dernière, j'ai jugé que l'interdiction dans les trois zones jaunes était, on avait déjà beaucoup d'annonces à faire, donc c'est moi qui ai pris la décision de ne pas le dire. La décision la semaine dernière concernant les masques, la décision de la CNESST est tombée après mon point de presse. Donc, je suis complètement transparent, je vous donne toutes les informations importantes, puis je vais continuer de le faire.
Donc, vous ne saviez pas pour la décision d'obliger à porter le masque à l'extérieur avant la conférence de presse?
Bien, je n'étais pas au courant, donc ça m'était passé, là. Peut-être que ça m'avait été dit, mais je n'étais pas au courant.
Alain Laforêt, TVA Nouvelles.
Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous trouvez dans cette lignée-là que lorsque des mesures comme ça tombent après, comme le port du masque, que là, il y a un risque de décrochage au niveau de l'adhésion parce que le message passe mal?
Bien, écoutez, là, ce qu'on dit, c'est que quand on est avec une autre personne avec qui on n'habite pas, on devrait porter le masque. C'est pas quelque chose de nouveau. Bon, oui, il y avait eu à un moment donné une époque où on a dit si vous allez prendre une marche avec une personne, c'est correct. Mais avec le variant, ce que j'ai compris, c'est que la santé publique a dit même si vous êtes juste avec une personne, portez un masque.
Justement, dans cette veine-là, là, si on décide, M. Legault, tous les deux d'aller jouer au golf, on devra porter le masque. Si on va dans un parc où le problème est présentement à Montréal, puis qu'on s'assoit, on ne porte pas le masque. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas ça le problème? Là? C'est que c'est pas égal partout. Là.
Bien, peut-être que le Dr Arruda peut expliquer, là, mais je peux comprendre que quand on est immobile à plus de 2 mètres, c'est une chose, là.
C'est exactement la situation. Il faut comprendre que tout ça est associé, un, aux variants qui sont excessivement transmissibles. Deux, on sait le comportement humain, c'est un être social. C'est très difficile de maintenir le 2 mètres, surtout si on est en train de bouger, marcher, on se rapproche, etc. Et trois, les seules exceptions, c'est effectivement quand on est assis à un banc, à 2 mètres de quelqu'un, qu'on ne bouge pas, qu'on ne va pas se rapprocher. À ce moment-là, on peut enlever le masque. Et si on est autour d'un endroit où on peut être fixe à 2 mètres pour pouvoir manger, faire un pique-nique, on enlève le masque. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là. Et quand vous jouez au golf, vous n'allez pas maintenir nécessairement le 2 mètres les uns des autres. C'est trop facile de se rapprocher. Et on n'a qu'à voir comment les gens se comportent dans la rue pour comprendre la raison pour laquelle on ajoute cet élément-là dans la perspective du variant.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Bonjour, M. le Premier ministre. M. le ministre, Dr Arruda. Monsieur Legault, vous avez eu, de ce que je comprends, des projections faites par l'INSPQ, comme ça arrive à toutes les semaines. On comprend également que ce qui est inquiétant, ce sont les hospitalisations. On comprend que le nombre de cas va amener davantage d'hospitalisations. À partir de quand, selon les projections que vous avez eues, est-ce que le réseau de la santé va être surchargé, il va tomber en état, par exemple, où il va falloir faire encore plus de délestage que ce qu'on a en ce moment? Là, je comprends que ça doit concerner davantage les trois régions problématiques. Là.
Bon, je vous dirais d'abord, il n'y a pas de réponse simple, parce que quand je regarde les projections de l'INES et de l'INSPQ, ils n'ont pas exactement les mêmes projections. Deuxièmement, les projections sont faites dans deux régions, le Grand Montréal et le reste du Québec. Or, la situation est plus complexe que ça. Comme vous le dites, il y a trois régions qui sont dans le reste du Québec qui sont particulièrement fragiles, difficiles, inquiétantes. Mais on n'a pas, comme tel, de projection parce que le nombre n'est pas suffisant seulement pour ces trois régions-là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse facile. On voit qu'on a une marge de manœuvre dans le Grand Montréal pour l'instant. Mais on voit que ça va être serré dans le reste du Québec.
Vous avez dit également vous visez le 24 juin là, pour avoir une espèce de retour à la normale, là, si je comprends bien. Le Grand Prix du Canada, c'est le 13 juin. Est-ce que ce serait pensable de tenir cet événement-là, compte tenu du fait, d'une part, que ça implique le déplacement de 2000 personnes qui vont être la semaine d'avant à l'étranger, quelque part en Europe, je pense, et ensuite les amener sans qu'ils aient fait le deux semaines obligatoire, comme on impose à tous les gens qui arrivent de l'étranger, qui viennent s'installer. Un, est-ce que, sur le plan sanitaire, ce serait une bonne idée de faire ça, le message que ça enverrait, et est-ce qu'on doit accéder aux demandes financières des organisateurs du Grand Prix?
Bien, comme vous dites, il y a comme deux décisions. Il y a une décision sanitaire qui relève de la santé publique du Québec et du Canada. Et bien là, c'est à eux autres, c'est aux experts à répondre à cette question-là. Puis il y a la partie financière, où là, on nous dit, parce qu'il n'y aura pas de spectateurs, il faudrait qu'il y ait une compensation qui vienne du gouvernement, alors qu'on a déjà beaucoup donné. L'inquiétude qu'on a, c'est si on n'a pas le Grand Prix en 2021, qu'arrive-t-il avec notre entente 2022-2029? Parce que oublions pas que le Grand Prix, c'est l'événement où il y a à peu près le plus de vraies retombées économiques, là, parce que c'est de l'argent qui vient de l'étranger qui est dépensé ici au Québec. Puis évidemment, on s'assure toujours que l'aide qui est donnée est inférieure aux vraies retombées économiques pour le Québec. Donc, c'est tout ça qui est discuté actuellement, puis il n'y a pas encore de conclusion.
Est-ce que je peux avoir le Québec de la santé publique, par contre, sur l'aspect...
Oui, rapidement, monsieur santé publique.
Oui.
Bouddha de...
Pour ce qui est de la tenue de l'événement à huis clos comme tel, il y a moyen de le tenir, selon nous, en termes de santé publique, là, avec des mesures et des protocoles bien avisés. Pour ce qui est de la question de l'importation... notamment du virus par des gens qui viendraient de l'extérieur sans quarantaine. Ça, c'est des discussions qui ont cours actuellement entre le Québec et le Canada qui est responsable de la mise en place de la quarantaine. Il va y avoir des évaluations qui vont être faites pour être capable de faire l'analyse de risque et voir s'il y en est. Mais du côté protocolaire sur le sol québécois, il y aurait moyen de tenir F1 à huis clos sans porter préjudice à la santé publique. Comme j'ai dit, le reste se discute avec le fédéral.
Merci, Dr.
OK. Ben là, on est pas mal fixé par rapport au Grand Prix de Montréal. Luc Lavoie, tu as écouté ça. Vas-y donc avec tes commentaires.
Ben d'abord, un ton extrêmement solennel et très, pas alarmant, mais tu sais, très solennel, disons, je me répète.
Un ton grave, dirais-tu?
Grave, oui, grave. Et je pense qu'il était approprié. Mm-hmm. Il était approprié. Mm-hmm. Et surtout, l'accent mis, parce que c'est ça qu'on voit mondialement, Bernard. Le virus se retrouve chez des groupes plus jeunes. Mm. La majorité, par exemple au Brésil, où le pays est quasiment en feu, la majorité sont en bas de 40 ans, ceux qui sont admis à l'hôpital. Alors ça, c'est un message aux jeunes. Oui, vous avez fait preuve de solidarité. Ben là, pensez à vous-même parce que vous êtes devenus les cibles. Mm. D'ailleurs, je pense, moi, à la lumière de ce qu'on a appris en interviewant puis en entendant des experts, que le fait qu'on a priorisé, puis il fallait le faire, 85 ans, 80, en descendant comme ça, le virus, lui, il descend aussi. Il cherche une autre place pour s'accrocher. Mm-hmm. Alors, le rythme de la vaccination a probablement à voir avec le fait que les jeunes sont présentement beaucoup plus victimes qu'ils l'étaient autrefois. Et l'autre affaire, ben, j'aimerais reprendre sa formulation, là, je n'ai pas la transcription, là, mais quand il a parlé du 24 juin, donc dans 73 jours, là, il n'a pas dit « ça va être un retour à la normale ».
Non, non, non.
On pourra commencer à envisager, a-t-il dit, une forme de normalité. Hein? C'est comme, je pense qu'il nous prépare au fait que faites pas trop de plans pour le 24 juin, puis après, là, parce qu'on est loin d'être sûr que ça va être un retour à la normale.
Il remet pas en question la vaccination de tous ceux et celles qui l'auront voulu d'ici le 24. Ça, il remet pas ça en question. Mais ce qu'il dit, c'est on a deux gros mois devant nous. Ça, c'est très clair.
Il a répété quelquefois deux gros mois.
Oui. Et puis, dans le fond, il dit la première dose d'ici le 24... C'est le début d'un retour progressif. Écoute, le retour progressif à la normalité, tu fais la bonne lecture. Moi, je pense, Luc, tu fais la bonne lecture quand tu interprètes ça comme étant « Pensez pas que parce que vous avez reçu une dose de vaccin d'ici le 24, que vous allez pouvoir avoir des vacances normales cet été. »
Comme on disait à Rimouski, ne partez pas en peur. Maintenant, je pense, moi, je leur recommande, je leur fais une suggestion. Il faudrait qu'on nous explique pourquoi on a maintenant, on en est fiers, 2 millions de personnes de vaccinées qui ont reçu un premier vaccin. Pourquoi est-ce que la situation n'évolue pas de la bonne façon? C'est ça qui... Je pense connaître la réponse, mais je ne suis pas un expert, puis ma réponse serait basée sur ce que j'ai déduit de ce que j'ai entendu depuis un an. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait qu'on dise aux gens, faites-vous vacciner, ça donne quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, mais
je le répète, là, Luc, là, tout à l'heure, je ne sais pas si tu m'as entendu, là, il y a plein de plages horaires qui sont disponibles actuellement dans les cliniques de vaccination de la région de Montréal et de l'île de Montréal. Allez-y!
Et c'est pour ça que je dis, il faudrait vraiment qu'ils mettent l'accent là-dessus, il faut que les gens comprennent. Moi le premier, puis toi, puis tout le monde. Pourquoi, avec 2 millions de personnes vaccinées, on est dans une vague qui est quasiment pire que les deux précédentes?
On se reparle un peu plus tard, Luc?
À tantôt.
On s'en va à la pause. Au retour, on parle à Lise Ravary. On va parler notamment de gros sous, hein, l'aide financière, tout près de 6 milliards. Ça, c'est votre argent qui va être prêté à Air Canada. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon deal pour vous?